Alors, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à la deuxième partie de notre symposium. Welcome to all at the second part of the Claude Ryan Symposium. Nous avons eu un départ formidable hier au Centre Newman, où nous avons pu avoir des témoignages de Patrice Ryan, Tom Mulcair, Jeff Crilly et d'autres sur qui était l'homme, en fait. C'est vraiment ce qui est ressorti. Et donc, nous sommes très heureux de pouvoir continuer ce matin en regardant la vie politique de Claude Ryan. So, I'm very happy to introduce the panel. And you will have recognized probably already who is at the table. Je vais vous les présenter en ordre de présentation de leur petit topo. Nous aurons Guy Lachapelle, ensuite John Parisella et Olivier Marcil qui fera la répartie, la réplique aux deux premières interventions. Donc, Guy Lachapelle est professeur de sciences politiques à l'Université Concordia. C'est un spécialiste de sciences politiques, de l'analyse des politiques publiques et de l'analyse comparée des valeurs et identités dans les pays industrialisés. Il est l'auteur du livre « Claude Ryan et la violence du pouvoir, le devoir et la crise d'octobre 1970 ». Ou le combat des journalistes démocrates. C'est le même livre là, dont je viens de citer le titre, qui est paru en 2005. Chaque intervenant, donc messieurs Lachapelle et Parisella, parleront pour 15 minutes. Ensuite, Olivier Marcil interviendra et nous garderons 15 minutes pour un échange avec la salle. And yesterday was very interactive, and I'm sure will be interactive this morning as well. Alors, Monsieur Lachapelle, est-ce que je peux vous inviter?
Merci beaucoup. Le micro fonctionne bien aujourd'hui, donc ça va être plus facile. Pour ne pas prendre trop de temps, je voudrais juste vous dire, étant celui qui représente Concordia, que Monsieur Ryan a été très important dans l'histoire de Concordia, et c'est notre 30e anniversaire cette année, suite au rapport Parent. Le rapport Parent suggérait que Loyola, le collège Loyola et le Sir George Williams soient fusionnés. Et M. Ryan, dans un éditorial, avait endossé cette idée pour une raison fort simple, que l'esprit jésuite de Loyola avec l'esprit du YMCA de Montréal serait une bonne chose de mettre les Irlandais avec les jésuites. Donc, catholique, jésuite et côté protestant, je pense que ça allait dans sa philosophie des choses et je trouvais ça... une belle occasion aujourd'hui de vous rappeler. Aujourd'hui, je vais un peu continuer sur ce que Michael a fait hier, un peu sur octobre 70. Son titre était sur le gouvernement parallèle. Il a regardé avant, moi je regarde après, essentiellement sur l'évolution de ce qui s'est passé à partir de l'événement d'octobre 70. Avant qu'on me pose la question, puis avant que je prenne le temps, Mme Lefebvre avait une question sur la méthodologie hier. Je trouvais la question intéressante, c'est comment est-ce qu'on fait pour décortiquer Claude Ryan? Évidemment, j'ai fait un travail un peu plus monastique en entrant dans un ordinateur l'ensemble des éditoriaux de Claude Ryan en octobre 70. C'est un travail assez fastidieux à faire, surtout qu'à l'époque, on était encore avec des cartes perforées, mais d'utiliser des programmes informatiques de l'époque, de traitement de texte aujourd'hui et autres, c'est un exercice utile. Et je vais vous dire, recopier quelqu'un ses textes dans la bonne tradition monastique, c'est toujours une façon de mieux comprendre l'homme. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Là, je vais vous donner des petits, avant d'aller dans le détail. J'ai fait ça parce que, d'abord, j'étais étudiant au début des années 70 à l'Université de Montréal, et mon objectif était de devenir journaliste. Et tout le monde disait, M. Ryan est le plus grand journaliste que le Canada n'ait jamais eu. Et je me suis dit, il doit avoir une façon d'écrire cet homme-là qui est différente des autres pour être un bon journaliste. Et donc, je me suis mis à copier, à regarder, à lire. Et comme étudiant, évidemment, dans le fameux autobus 51 qui nous menait à l'Université de Montréal, c'était une façon de lire à tous les matins M. Ryan. J'étais un lecteur assidu de M. Ryan pendant des années. Et à son décès, évidemment, j'ai ce petit travail que j'avais dans mes tiroirs, j'ai voulu le remettre en place pour montrer un peu la contribution de l'homme. J'ai beaucoup de textes, de choses sur M. Ryan que j'ai gardé au fil des ans. Évidemment, j'ai gardé tous les journaux de son décès. Et je vais surtout citer le. Je vais reprendre celui de Gazette que je trouvais intéressant. Ryan died at the age of 79, former liberal leader, a Quebec nationalist who never lost faith in Canada. So, c'est un peu le titre de mon papier et un peu de vous expliquer un peu, malgré les événements d'octobre 70, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi M. Ryan a quand même eu une position assez unique de tous les journaux. Mon objectif, pour le travail, mais le prochain bouquin, c'est mon objectif est de comparer l'attitude et les positions de M. Ryan et de M. Lévesque. Le Canada anglais découvre maintenant de plus en plus que, en fait, ce n'est pas M. Trudeau qui est important dans le combat avec M. Lévesque. Je pense que M. Ryan a joué un rôle important parce qu'on avait deux nationalistes qui s'affrontaient. Il y avait le nationaliste au sein du Parti libéral quand M. Lévesque a présenté sa formule de souveraineté association en 68, et il y a le rapport Gérard Lajoie qui a été déposé en même temps par la Commission, qui était la réponse à la souveraineté association. Pour moi, c'est un point de départ fondamental vers deux visions du fédéralisme canadien ou de réforme du fédéralisme. J'ai toujours considéré que M. Lévesque, ni M. Ryan n'étaient ni des fédéralistes ni des souverainistes, mais deux personnes qui cherchaient à trouver un compromis entre deux extrêmes. Donc, il y a beaucoup de similitudes, d'éléments semblables qu'on retrouve dans les deux manifestes. Et octobre 70 a été une occasion unique, et c'est le titre de mon papier, sur cette alliance entre M. Ryan et M. Lévesque durant la crise d'octobre. J'ai retrouvé tous les textes que M. Lévesque a reçus de citoyens en 1970. Elles sont toutes dans ses archives. Ce que je cherche, ce sont les lettres que M. Ryan a reçues pendant la crise d'octobre. Et ça, je ne les ai pas trouvées encore. Fait que si quelqu'un trouve ça, je serais très heureux de les avoir pour pouvoir faire la comparaison. Autre lettre importante, est-ce qu'on retrouve, j'ai les communiqués, j'ai la lettre manuscrite dans les archives de M. Lévesque du communiqué que je vous parlerai du 18 novembre. Toute la lettre manuscrite de M. Lévesque, il y a celle publiée dans Le Devoir, il y a celle officielle de la CSN et FTQ, et toutes les bifures et toutes les choses qui posent question que M. Ryan a aussi discuté. L'autre document que je pense qu'il est important aussi de mentionner à ce stade-ci, avant de parler de la crise d'octobre, c'est la lettre du 23 décembre 1971 que Pierre Vallière envoie à M. Lévesque lui disant « Il faut mettre fin à toute violence. La violence n'est pas un outil. » Et M. Ryan, son éditorial du 14 décembre 1971 est fondamental là-dessus. Pour moi, ça termine essentiellement la période 60-71 de violence politique au Québec. Cette lettre-là met un terme à tout le débat, et M. Ryan comprend bien. Je vais juste vous lire la conclusion de son éditorial de 71. Il dit « Pour le pouvoir, l'autocritique de Vallière comporte aussi des leçons. Si l'appel de Vallière est entendu, le pouvoir ne pourra plus se réclamer d'un fantôme pour justifier ses propres abus et son impuissance. Il devra s'adresser enfin à ses adversaires réels sur le terrain du débat démocratique. Les assassinats de réputation, il parlait de lui-même, les équivoques, les allusions empoisonnées, les faux prétextes, les recours abusifs à la force policière deviendront plus difficiles. Quand il n'y aura plus de fantômes à combattre, le pouvoir devra davantage engager le débat autour de problèmes réels qui se posent au Québec. Il devra renoncer, lui aussi, à une violence plus subtile, mais non moins réelle, à laquelle il a facilement succombé au cours des derniers mois. Si cela devrait être compris, les chances d'un règlement démocratique de la question québécoise s'en trouveraient considérablement accrues. Durant la crise d'octobre, le pouvoir politique a voulu tuer la démocratie québécoise en cherchant à faire taire tous ceux et celles, artistes, écrivains, militants, journalistes, qui osaient parler de liberté. Après les années de guerre et un régime Duplessis qui méprisait la liberté de parole autant que les droits des artistes, les années 60 et le début de la Révolution tranquille réveillèrent les rêves et les espoirs de Québécois, et ce, dans une Amérique en pleine mutation. Je pourrais vous parler longuement du lien entre M. Ryan, Lévesque et les États-Unis, mais ce sera dans un bouquin. La liberté de parole reprenait ses lettres dans la cité, parfois grinçante et dénonciatrice, mais toujours prête à débattre. Mais en octobre 70, les actions du Front de libération du Québec mirent en péril les acquis de 10 années de lutte, afin que le Québec puisse reconquérir son pouvoir politique. Une nouvelle conscience collective a ainsi vu le jour. Claude Ryan écrivait d'ailleurs dans Le Québec qui se fait, et ça, c'est un bouquin qu'il a publié en 71, qui est un peu, qui est un plusieurs articles qui sont publiés dans Le Devoir par différents intellectuels, et il le signe, et il met ces articles-là ensemble. L'introduction est fondamentale à lire. Il dit, et je le cite, « Formé dans le climat des années 60, le nouveau Québécois n'éprouve au contraire qu'une attirance très limitée pour ce qui est extérieur au Québec. Il n'est pas nécessairement anti-canadien ou anti-étranger, il est tout simplement Québécois, et c'est en fonction de cette nouvelle identification qu'il tente de se définir par rapport au monde extérieur. » La démocratie québécoise allait donc être mise à dure épreuve en octobre 70. Pour les ennemis du Québec, l'occasion était belle de poser un grand coup contre les voix les plus progressistes. Le grand paradoxe fut que ceux qui avaient été parmi les grands pourfendeurs du clérico-nationalisme de Maurice Duplessis se retrouvèrent en octobre 1970 à utiliser les mêmes outils du pouvoir absolu. Tous les journalistes du Québec étaient dans la mire du pouvoir, mais surtout Le Devoir et Claude Ryan. Pour ceux et celles qui voudraient et qui veulent toujours objectivement comprendre ce qui s'est vraiment passé en octobre 70, afin de mieux, évidemment, saisir les causes de cette crise et comprendre les tensions entre les partisans de la ligne dure et ceux qui privilégiaient la négociation entre le gouvernement du Québec et les ravisseurs, et ceux qui estimaient qu'il s'agissait d'abord et avant tout d'une crise québécoise, les positions de Claude Ryan et de René Lévesque constituent sans aucun doute un moment fort de notre histoire politique. Oser défendre certains idéaux démocratiques fut vite perçu par le pouvoir politique comme des brûlots incendiaires, une menace à l'ordre établi, dixit l'État canadien. Un grand nombre de journalistes comprirent rapidement ce qui se tramait à l'ouest du Québec. Claude Ryan et les éditorialistes du Devoir, Jean-Claude Leclerc, Paul Sauriol, Claude Lemelin et Vincent Prince. Malheureusement, il ne reste que Jean-Claude Leclerc qui a été très généreux à préfacer mon bouquin de cette période-là, seront aux premières loges de ce combat entre journalistes et pouvoir politique. Cette crise demeure une période charnière, une longue suite d'événements à travers lesquels le Canada a finalement perdu pour toujours son innocence. Mais derrière le rideau de cette pièce historique, il ne faut pas oublier les nombreux drames personnels. C'est à ce niveau que Claude Ryan et René Lévesque seront toujours au chevet d'une justice sociale qui allait en prendre pour son rhume. Celui des 497 personnes emprisonnées en vertu de la loi des mesures de guerre, celui des familles de M. Cross et Laporte, et celui de l'entourage des ravisseurs. Pour les principaux acteurs de cette crise, et en particulier Pierre-Éliott Trudeau et Robert Bourassa, c'est leur autorité qui était remise en cause. Pour d'autres, c'était la peur de voir certains de leurs privilèges disparaître et la crainte de voir un nouveau Québec émerger plus tôt que prévu. L'alliance entre Claude Ryan et René Lévesque en octobre est le reflet de ce débat entre deux nationalismes. L'un qui perdra jamais sa foi dans le fédéralisme canadien et l'autre qui optera résolument à poursuivre ses rêves de la Révolution tranquille et à donner aux Québécois un État national à la hauteur de leurs ambitions. Au cours de son histoire, le quotidien Le Devoir n'a jamais hésité à manifester son opposition à toute action gouvernementale qui jugeait contraire aux intérêts tant au Québec que du Canada. Tous les directeurs du Devoir, de même que leur équipe éditoriale et les journalistes, ont toujours cherché à agir librement face au pouvoir politique. Je ne vous citerai pas toute la longue liste de liens que M. Ryan faisait avec Henri Bourassa, mais plusieurs combats et plusieurs idées de M. Ryan ont certainement été influencés par Henri Bourassa. Je vais laisser Robert l'adjoindre. Octobre 70. Certains enjeux idéaux sociaux, et en particulier ceux défendus par René Lévesque et les membres de son parti, se retrouvèrent rapidement au banc des accusés en octobre 70. Comme nous avons pu l'entendre dans les reportages du journaliste Guy Gendron à l'émission « Tout le monde en parlait », présentée sur les ondes de Radio-Canada en 2010, pour commémorer le 40e anniversaire d'octobre 70, si en plus d'être militant, vous étiez journaliste, vous étiez considéré comme un collaborateur du Front de libération du Québec. L'objectif du pouvoir politique lors de la crise d'octobre était clair, emmurer certaines idées qui devenaient trop encombrantes. La lecture du manifeste du FLQ sur les ondes de Radio-Canada suscita une telle sympathie que le pouvoir politique jugea qu'il fallait noyer au plus tôt tout signe d'affirmation identitaire de la part des Québécois. La lecture du manifeste, diffusée en partie sur CKAC, fut un point tournant. Gaétan Montreuil soulignait à l'émission « Tout le monde en parle » que pour lui, qui venait de ces milieux populaires, et ce, au-delà de son travail professionnel, il sentait bien que le manifeste était un cri du cœur d'une jeunesse désabusée face aux inégalités persistantes au sein de la société québécoise. Autant M. Lévesque que M. Ryan ont compris le sens de ce texte. Ils en ont discuté amplement et ils l'ont mis dans une excellente perspective. Et je ne vous citerai pas tous les textes de M. Lévesque et Ryan sur le sujet. En octobre 1970, le Devoir résistera aux tentatives d'intimidation du pouvoir politique. Claude Ryan constate d'ailleurs un mois après le début de la crise que les relations entre la presse et le pouvoir politique sont difficiles au point où certains contestent sa façon et sa manière de faire du journalisme. Je le cite. « Si le journalisme n'était qu'un exercice littéraire ou philosophique, s'il ne devait être qu'une façon de divertir le public pendant que ceux dont c'est la responsabilité décide, je n'y serais pas entré et je n'y resterais pas. Pour pratiquer le journalisme suivant une conception plus large, j'éprouve le besoin de contact direct, continu, avec des personnes de tous les milieux, en particulier avec celles qui détiennent un mandat public. Certains redoutent cette conception, c'est à eux de prendre leur distance s'ils le préfèrent. Mon devoir, c'est de hausser ma perception et mon intelligence des situations et des hommes au niveau du réalisme le plus élevé. Cela ne saurait se faire dans l'isolement olympien d'un bureau. » Je sais que le temps file. En octobre 70, les éditeurs, M. Ryan et son équipe éditoriale, se réunissent. Et c'est un moment important de la crise, le 11 octobre, dans les bureaux du Devoir. À ce moment-là, dans son initial du 30 octobre aussi, M. Ryan tente d'expliquer l'origine de toutes les rumeurs d'un gouvernement parallèle et comment le pouvoir fédéral a créé de toutes pièces cette histoire. M. Ryan écrit essentiellement que l'analyse de la situation les amenait à aborder trois hypothèses quant aux choix politiques qui risquaient de se présenter pour le gouvernement du Québec. Un, le gouvernement du Québec pouvait adopter la ligne dure et délaisser complètement ses pouvoirs à Ottawa en demandant la promulgation de la loi des mesures de guerre. Deux, le gouvernement du Québec pouvait s'avérer incapable de maîtriser la situation et à ce moment entrevoir la possibilité de former une nouvelle équipe gouvernementale nommée pour une période transitoire afin d'aider le Québec à traverser la crise. Et trois, le gouvernement de M. Bourassa pouvait opter pour la négociation avec les ravisseurs sans abdiquer ses pouvoirs au gouvernement canadien. De ces trois hypothèses, le gouvernement de M. Bourassa choisira la première. Mais Claude Ryan et Le Devoir et M. Lévesque, dès le 12 octobre, privilégient la troisième. Parce qu'à ce moment, Claude Ryan estimait que Robert Bourassa semblait être prêt à vouloir négocier avec les ravisseurs. Deux jours plus tard, le 14 octobre 1970, le premier ministre du Québec téléphona à nouveau à Claude Ryan pour l'informer que son gouvernement était sur le point d'adopter la ligne dure, sous les pressions incessantes des membres du cabinet fédéral et en particulier de Marc Lalonde. Ce dernier, d'ailleurs, confirma ces faits lors d'une entrevue à la télévision de Radio-Canada à l'émission Le Point le 6 janvier 1994, en affirmant qu'il était bel et bien avec Robert Bourassa les 14 et 15 octobre 1970. Malgré tout, le devoir n'entendait pas renoncer, quels que soient les choix de M. Bourassa, à maintenir sa troisième option, comme étant la meilleure dans les circonstances. C'est pourquoi Claude Ryan et un groupe de personnalités québécoises convoquèrent la presse au Holiday Inn le 14 octobre 1970 afin de présenter leur déclaration commune. Claude Ryan, René Lévesque, Marcel Pepin, Louis Laberge et 12 autres personnalités québécoises demandèrent au gouvernement du Québec de négocier la libération des otages en échange de la liberté de prisonniers politiques. Il ne s'agissait pas toutefois, dans l'esprit de M. Ryan, de libérer tous les prisonniers politiques en échange de la vie des deux otages, mais de mener une négociation serrée avec les ravisseurs de James Richard Cross et de Pierre Laporte, afin de déterminer le nombre de prisonniers politiques qui pourraient être relâchés. Cette déclaration sera publiée le lendemain dans Le Devoir et recueillera des appuis de plus de 1 500 personnes. Je vais prendre un petit peu de temps juste pour vous lire un peu ce texte. Je sais. Non, c'est pas le livre. Ça n'a rien à voir avec le livre. Je veux juste prendre une minute, s'il vous plaît, juste pour terminer. Je voulais juste vous dire, cette déclaration est importante. C'est un texte important pour M. Ryan. L'affaire Cross-Laporte est avant tout un drame québécois. Les deux otages sont l'un un citoyen du Québec et l'autre un diplomate, dont la fonction faisait temporairement un citoyen avec le même droit de respect de la vie et de la dignité de l'homme. Et de sa dignité de l'homme de chacun d'entre eux. Le sort des deux vies humaines, la réputation et l'honneur collectif de notre société, le danger qu'elle court, présente une dégradation sociale et politique importante. Tout cela rend évident pour nous les faits, et c'est premièrement au Québec que réside le droit et doit résider la responsabilité de trouver la solution et de la faire épicler. En conclusion, dernière, et je cite M. Ryan tout simplement, dans son bouquin, d'ailleurs, sur le Québec qui se fait, où il fait essentiellement l'apologie et un peu la synthèse de ce qui s'est passé avec dans sa relation avec M. Lévesque. Absolument. Il s'est produit à l'occasion du drame Crosse-la-Porte un phénomène de polarisation sans précédent. Pour la première fois depuis longtemps, on a vu s'exprimer d'un côté, une droite globale, réunissant tout ce qui appuyait les décisions du pouvoir, et de l'autre, une gauche globale, groupant tout ce qui était de force dissidente. Nous aurions souhaité, selon notre penchant, pouvoir tenir dans ce drame une ligne modérée. Mais c'est impossible. Être pour une solution négociée des enlèvements, c'était s'assimiler pour certains au FLQ et aux ennemis de l'ordre. Émettre une opinion conjointe avec des hommes comme René Lévesque, Louis Laberge et Marcel Pépin, c'était infliger une injure insoupçonnée aux amis de l'ordre. Oser s'opposer au gouvernement Trudeau et Bourassa, c'était se condamner, à plus ou moins brève échéance, à rallier le camp séparatiste. Fin de la citation. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Alors maintenant, John Parisella, que vous connaissez, sinon pour avoir été chef de cabinet des premiers ministres Robert Bourassa et Daniel Johnson de 89 à 94, vous le connaissez peut-être pour avoir été le délégué général du Québec à New York beaucoup plus récemment. Il est directeur exécutif de Campus Montréal, responsable d'une grande campagne de financement des HEC Montréal, Polytechnique, Université de Montréal. Nous sommes écuméniques ici, McGill fait mention de cette université au côté de la montagne. Alors, c'est à vous maintenant. Merci.
Merci beaucoup, Anne. Est-ce que vous m'entendez assez bien? Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup à l'Université McGill, qui est mon alma mater. J'ai eu l'occasion d'étudier au moins dans trois facultés, sciences politiques, affaires et éducation. Mais je voulais aussi me joindre à mon ami Guy, avec qui j'ai travaillé à Concordia, à un autre moment donné, mais on a fait des choses ensemble aussi à la télévision à l'occasion. Mais je voulais juste signaler que quand j'étais étudiant au Collège Loyola, on souhaitait que ce soit l'Université Loyola, mais on s'est finalement rallié à l'Université Concordia, mais ça, c'est du passé. Écoutez, pour moi, c'est un honneur d'être ici. Je voulais juste peut-être souligner la présence de deux personnes, de plusieurs personnes que je connais ici, mais de deux personnes qui pour moi, représentent quelque chose de très important dans la présentation que je vais faire aujourd'hui. La première journée que je suis devenu permanent du Parti libéral du Québec, la première journée, le lundi et le lundi soir, j'étais dans le comté de Darcy McGee pour la nomination de Herbert Marx. Et Herbert s'en souvient, qui est ici avec nous. Et merci. Alors, je suis très heureux. Et comme chef de cabinet, même un peu comme directeur général, j'ai eu l'occasion de travailler avec des chefs de cabinet. Puis, dans un texte de Tom Mulcair, hier, il parlait d'un chef de cabinet de l'âge de 19 ans. Ce jeune chef de cabinet-là, qui est maintenant un sous-ministre du gouvernement actuellement, il est à l'ENAP, mais c'est un homme exceptionnel, aussi qui est ici, puis c'est André Fortier. Je ne sais pas si André est là. Il y en a d'autres qui ont été des très proches collaborateurs. Évidemment, mon ami Olivier à côté, puis mon ami Jeff Kelly dans le fond de la salle. Mais je vais arrêter de faire des présentations pour pas trop écourter mon temps pour qu'est-ce que je vais présenter. Beaucoup de gens m'associent peut-être à Robert Bourassa, et on parle souvent de Robert Bourassa 1, Robert Bourassa 2. Moi, j'étais plus associé à Robert Bourassa 2. J'ai pas connu Robert Bourassa 1, qui a été, traité dans l'exposé de mon ami Guy. Mais j'ai connu Ryan 1 et Claude Ryan 2. J'ai fait les deux. Parce que je me cache pas de le dire, puis je l'ai dit dans un texte ce lundi, que la raison que je suis devenu membre, je me suis engagé en politique, c'est à cause de Claude Ryan. C'est la vraie et unique raison. Et comme j'ai dit lundi, j'ai choisi l'homme avant le parti. J'avais suivi M. Ryan, son parcours à travers les années 60, quand il est devenu éditeur au journal Le Devoir, puis on attendait toujours son éditorial avec beaucoup d'impatience. Ça avait surpris des gens quand il y avait un dossier Stanfield sur Trudeau en 68. Évidemment, on vient d'entendre son rôle durant la crise d'octobre. Et évidemment, en 76, il y avait endossé essentiellement de faire le choix à l'intérieur de son propre comté. présenté, ça c'est essentiellement l'éditorial, et ça avait été interprété comme un vote en faveur du Parti québécois. Et je dois vous avouer, à toute franchise, que dans le comté de Gouin, j'ai voté pour le Parti québécois en 1976. Je suis certain que vous ne tombez pas en votre chaise, là, mais ça m'est arrivé une fois. Il est clair que quand les années ont suivi, évidemment, M. Lévesque est en pouvoir, on est à la veille d'un référendum. Et c'est là que j'étais pas prêt à franchir. J'étais prêt à changer de gouvernement, mais j'étais pas prêt à franchir l'étape de la souveraineté association. Et comme tout le monde, on suivait évidemment les débats, puis ça a duré environ 2 ans de temps sous le leadership intérimaire de Gérard Delévesque, une recherche essentiellement pour la succession de Robert Bourassa, qui avait perdu l'élection en 1976. Non seulement perdu le gouvernement, mais perdu dans le comté de Mercier, et il avait quitté dans les jours qui ont suivi. Donc, M. Lévesque, Gérard D, a fait un travail exceptionnel. Il y a eu un grand congrès qui s'appelait le Québec des libertés, et durant cette période-là, il y avait une opération séduction auprès de Claude Ryan pour devenir candidat. Et moi, je le suivais à la télévision régulièrement. Il était au programme The Editors, puis il faisait d'autres programmes à la télévision. Puis moi, je me suis dit, si lui se présente, ça serait un homme assez pour me rallier au Parti libéral du Québec, parti à laquelle j'avais voté contre en dernière élection. Donc, Claude Ryan se présente, et là, on rentre dans ce que j'appelle la partie Ryan 1. M. Ryan s'est présenté au leadership contre Raymond Garneau. Raymond Garneau est un homme qui est devenu un ami depuis, et un homme que je respecte énormément, qui a fait une grande contribution au Québec, représentait un peu la continuité du gouvernement qui avait perdu l'élection en 1976. M. Ryan représentait ce qu'on appelait à l'époque le renouveau. Et son arrivée en politique, c'était vraiment une bataille un peu entre la continuité, même s'il y avait des programmes, des projets de réforme dans l'équipe de M. Garneau, mais il y avait aussi la question du renouveau. M. Ryan gagne le leadership. Et M. Ryan, en gagnant le leadership, a réalisé quand même que le Parti libéral avait quand même des assises très importantes. Des années 50, c'était vraiment un endroit, une foire d'idées sous le leadership de M. Lapalme. Évidemment, on connaît ce qui s'est passé dans les années 60, des débats très corsés, très, très importants, le débat de la souveraineté association contre la société distincte de Gérard Delévesque. Et même dans les années Bourassa, il y a eu des débats concernant la langue qui a éventuellement abouti à la loi 22. Donc, le Parti libéral n'était pas un parti exclusivement voué à gagner le pouvoir, comme souvent c'est interprété dans les médias, mais c'était essentiellement un lieu de débat. Et M. Ryan a compris ça, et il voulait le pousser davantage plus loin. Donc, dès qu'il a pris le leadership du parti, largement inspiré par sa première grande carrière avec l'Action catholique et sa deuxième carrière comme éditeur du journal Le Devoir, et le fait que là, on avait un changement de gouvernement avec des changements dans le financement du parti politique, qui a décidé de faire du Parti libéral un parti vraiment au diapason moderne de l'époque. Et dans un sens, le meilleur modèle était le Parti québécois. Le Parti québécois était le parti le plus moderne, le plus avant-gardiste de l'époque et attirait beaucoup de jeunes personnes. Et il fallait faire du Parti libéral essentiellement la copie conforme, et peut-être un mot difficile à prendre, mais copie semblable de toute façon pour attirer des gens pour la cause, non seulement des libertés individuelles qui étaient fondamentales dans la pensée de M. Ryan, mais aussi pour le renouvellement et la réforme du fédéralisme. Donc Ryan gagne le leadership. Ensuite, M. Ryan passe à préparer le référendum. Et là, on était essentiellement sur le terrain. Et la mobilisation des forces fédéralistes s'est faite vraiment sous l'égide du Parti libéral du Québec. Je n'enlève rien à la contribution de Pierre-Éliott Trudeau durant cette campagne, mais il n'y a aucun doute que si le travail de terrain n'avait pas été fait, si la réflexion sur le fédéralisme, ses bons et ses moins bons côtés, et l'importance de la réforme, et ça s'est concrétisé avec le fameux livre beige, on n'aurait pas pu vraiment résister à le côté intellectuel des souverainistes de l'époque. Il y avait M. Lévesque, il y avait Jacques-Yvan Morin, il y avait Claude Morin, il y avait aussi Jacques Parizeau. C'était vraiment, comme on dit en anglais, « powerhouse of intellectuals ». Puis là, nous, il fallait faire le contrepoids. Et Claude Ryan, quasiment lui seul, a réussi à transformer le parti dans un parti de débat et dans un parti où on privilégiait le débat des idées, le choc des idées. En plus de ça, bien évidemment, il fallait augmenter le leadership, le membership. Et moi, personnellement, comme militant, dans la première instance, je passais mes dimanches à aller vendre des cartes de membres à 3 $ la carte aux portes dans le comté de Gouin. Donc, c'était, puis il y en avait une armée qui était sous le terrain. Puis à l'automne de 1980, on avait 225 000 membres dans le Parti libéral du Québec, qui n'est pas peu dire, puis aujourd'hui, on est loin de là. Donc, si j'avais vraiment à résumer Claude Ryan au terme de... Tu sais, résumer selon des thèmes ou des mots qui reflètent essentiellement cette période-là, je résumerais évidemment à l'engagement. C'est un homme qui croyait dans l'engagement, mais c'est un homme aussi qui croyait à l'action sociale. C'est un homme aussi qui avait le respect des autres et le respect des idées. Et aussi, il y a les gens qui, même s'ils étaient contre M. Ryan, c'était des gens qui respectaient M. Ryan. L'autre élément, c'était un homme très influent. C'était un homme qui était influent en dehors de la politique, mais il était influent dans le débat politique quand il est devenu partisan. Ce n'est pas donné à tout le monde. Quand on met le chapeau partisan, bien des fois, on tombe une coche ou deux de notre influence. M. Ryan a réussi à le maintenir, et ça, c'est très important. Ça a été important dans la préparation pour le référendum de 1980. L'autre élément, c'est la civilité. M. Ryan, c'était un homme qui croyait beaucoup dans la civilité du débat. Et il n'attaquait pas la personne. Il attaquait l'idée, les idées, il aimait le débat. Et des fois, je me souviens, dans la période post-leadership, il faisait des fois des soirées avec 10-12 personnes, puis il était là en course pour le vote de confiance pour rester comme chef après avoir perdu l'élection de 81. Puis on faisait ça des fois au Parti libéral, on était 10-12 pour parler des questions de l'heure. Je me souviens, moi-même, il y a-tu du temps à faire ça, mais M. Ryan, un vendredi soir, il prenait le temps, puis on avait ce genre de débat. Donc, et l'autre élément qui est très important, puis pour moi, c'est synonyme avec le nom Ryan, c'est l'intégrité. L'intégrité, non seulement sur le plan de l'éthique, mais l'intégrité sur le plan des idées. Venons là maintenant, évidemment, il a perdu l'élection de 81. Et ça, c'était sa plus grande échec, et on pensait que c'était fini. M. Ryan n'a pas fait la politique partisane, correcte pour le référendum, un peu comme une espèce de Québécois, un Churchill québécois, un Lincoln québécois pour la grande bataille, mais pour se faire élire, et les gens pensaient beaucoup au discours du soir de l'élection, où il a continué à faire des discours beaucoup plus partisans qu'un discours rassembleur, c'est-à-dire la soirée du référendum, quand il a fait son discours à Verdun, c'était beaucoup plus le discours qu'il avait pu faire 3 jours avant qu'il a fait le soir, et les gens ont dit, non, ce n'est pas le portrait qu'on veut. Donc, M. Ryan aurait pu quitter la politique, puis je suis certain qu'il aurait pu reprendre et continuer son rôle d'être très influent. Il a décidé de rester. Et en 1980, là, on rentre dans la phase Ryan 2. En 1985, le gouvernement libéral est élu. M. Bourassa devient premier ministre du Québec. Il le nomme ministre de l'Éducation, puis à ce moment-là, c'était l'Éducation et l'Enseignement supérieur qui était essentiellement sous l'égide d'un ministre. Plus tard, il est devenu ministre des Affaires de la Sécurité publique, les affaires municipales, et on lui a donné la tâche de gérer le dossier de la langue. M. Ryan était vraiment le ministre le plus influent. Je peux vous dire, comme chef de cabinet, ça dépassait ses dossiers. Et M. Bourassa voulait toujours cette caution, surtout sur des grandes questions comme des questions identitaires comme la langue ou la Constitution. On voulait toujours ce côté de caution morale. M. Ryan était devenu, même après la défaite de 1981, la conscience intellectuelle et la conscience morale du Parti libéral du Québec. Et je continue à croire que quand on gratte au fond du débat public aujourd'hui et des prises de position du Parti libéral aujourd'hui, c'est Claude Ryan. C'est encore le parti de Claude Ryan. Donc, il devient ministre très influent et il y a 4 dossiers que je pense que résume beaucoup la façon que M. Ryan a vraiment, vraiment exercé son travail, sa transformation dans la phase que j'appelle Ryan 2. Le dossier des illégaux, des jeunes anglophones qui ont été inscrits dans des commissions scolaires anglophones de l'époque, parce qu'à ce moment-là, c'était des commissions scolaires confessionnelles et non pas linguistiques. Et ils n'étaient pas inscrits dans les écoles françaises telles qu'ils étaient exigées par la Charte de la langue française. Ultimement, c'est une amnistie. C'est la loi 58. Essentiellement, c'était une façon de régler un problème, mais qui ne créait pas un précédent pour d'autres gestes semblables. C'était très Ryan. Il aurait pu dire, ben, les choses ont changé, la charte fédérale est en place, le jugement de la Cour suprême pour la clause Canada est en place. Donc, pourquoi qu'on se dit pas, ben, c'était une erreur, puis non. Lui a dit, c'est une situation particulière, il fallait régulariser le fait que les étudiants ont étudié pendant 7, 8, 9, 10 ans dans un système illégal, mais il avait étudié le programme et le curriculum du Québec, et il a réussi à le faire. Ça n'a pas divisé le Québec. Il l'a fait d'une façon habile et d'une façon rassembleur, et il a évité un débat public plus large sur la question d'accès à l'école française et anglaise. Deuxième dossier qui était bien intéressant avec M. Ryan, c'était la période post-OCA. Je dirais même la période OCA, parce qu'il était dans le comité de crise d'OCA. C'est important. Autant que M. Bourassa aimait ça avoir M. Ryan dans le coin, vous pouvez vous imaginer, moi aussi je levais la main pour avoir M. Ryan dans la pièce. Donc, dans le cas de OCA et la période post-OCA, parce qu'on a fait un changement de ministre, et c'était une recommandation que je me cache pas de dire que j'ai fait à M. Bourassa, puis il était très volontiers de le faire, c'était qu'on l'enlève de l'éducation pour le mettre à la sécurité publique. Et M. Bourassa dit, ben, en plus de ça, on va lui donner pas mal plus, parce qu'il est capable d'en prendre plus, puis aboutir avec les affaires municipales, et il a gardé le dossier de la langue. Donc, dans la période post-OCA, je peux vous dire que c'était très rassurant, parce que vous aviez deux juridictions qui pouvaient s'affronter, le fédéral pour les autochtones, le provincial pour l'organisation policière et l'application du code criminel. On a réussi à travailler et éventuellement faire une entente qui a régularisé la question de la sécurité policière sur la réserve. Puis aujourd'hui, bien, vous avez un système avec les peacekeepers qui font le travail en respectant les lois québécoises. Beaucoup de ça dépend de la façon que M. Ryan a géré post-OCA. Troisième dossier, Meech. Meech était un échec, malheureusement. Puis quand vous lisez M. Ryan, son livre, son dernier, là, qui est le regard du fédéralisme canadien, vous allez être capable d'avoir vraiment un bon aperçu de son rôle. Mais moi, je peux vous le résumer en quelques phrases. M. Ryan et M. Bourassa étaient sur la même page en ce qui concerne la réforme du fédéralisme. Il y avait une grande synergie, une grande complicité, une grande complémentarité entre les deux hommes. C'était vraiment exceptionnel. Et au bout de la ligne, ils ont travaillé main dans la main. Peut-être que je laisserai la place à des questions. Je n'irai pas plus loin que ça. Mais je pense que c'est important de voir cette relation-là. Ils se sont toujours vouvoyés, même en privé. C'était une relation qui était très formelle, pas intime comme on les connaît, mais très intime au niveau des idées. Et M. Bourassa avait le plus haut estime pour M. Bourassa, pour M. Ryan. Et M. Ryan m'a dit à quel point il est venu estimer les qualités humaines de M. Bourassa. J'ai eu l'occasion d'en parler de façon plus... par l'écrit plus tard dans ma vie, là, le temps qui reste. Donc, je voulais parler de ça. Le dernier point, c'était l'affichage bilingue. Il a réussi à faire le consensus quand on a enlevé la clause non-obstant sur l'affichage bilingue suite au jugement de la Cour suprême en 1988, et ce consensus-là demeure encore aujourd'hui, qui est la prédominance sans la prohibition. Prédominance de la langue française, mais pas de prohibition. Et ça, je peux vous dire que M. Ryan a géré ce dossier-là sur une période de 6 mois de façon exceptionnelle et avec un comité qui était souvent externe. André faisait partie du comité et il y avait aussi Tom Mulcair qui faisait partie du comité. Mais ça, c'était la méthode Ryan. La méthode Ryan, c'est d'écouter et c'était pas d'affronter, mais de développer le compromis et de faire travailler et d'amener les gens à endosser une position. Donc, je termine, Mme Lise, juste en sortant deux choses. Un peu de prop, le non-merci du référendum qui était la grande victoire de M. Ryan, mais le fameux calepin. C'est pas le sien, mais c'est un calepin qu'on a utilisé durant le leadership de Claude Ryan quand j'étais délégué. Et il y a une belle citation qu'il aimait beaucoup et qu'il avait mis sur son poster, puis je vais me permettre de la lire, je vais vous la lire dans sa langue originale, parce que c'est une citation de Arnold Toynbee, qui est un historien économique britannique du 19e siècle, qui a eu une courte vie, vécu seulement 31 ans, mais il a fait cette citation-là qui a inspiré beaucoup M. Ryan, mais en même temps qui résume très bien M. Ryan. Oui, je vais prendre celui-là. Et je vais vous lire la citation. If a democratic regime is to work satisfactorily, it needs a leader who is neither a trickster nor a demagogue, but a person of such ethical and intellectual worth that his fellow citizens will follow his lead without having to be either coerced or emotionally excited. Such a leader is hard to find, and if found, may be reluctant to undertake the difficult and thankless task of guiding his fellow citizens. The leader's role is obviously of the greatest social importance. To undertake it for altruistic reasons requires a very high degree of public spirit and unselfishness. Je trouve que ça résume beaucoup, M. Ryan. Moi, dans un texte que j'ai fait il y a environ 10 ans, je vais regarder le micro, Anne, je vais vous le mettre en 30 secondes. J'avais vraiment résumé, M. Ryan, en parlant d'une citation de Saint-Exupéry, puis je pense que ça, je peux terminer sur ça. Saint-Exupéry l'a si bien dit, « Adieu, dit le leur, voici mon secret. Il est simple, on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. » Et c'est ça, Claude Ryan.
Merci beaucoup, M. Parisella. Et je trouve intéressant, vous avez apporté le petit macaron. C'est pas seulement non comme aujourd'hui, mais non, merci. Ça résume aussi.
Dans son discours en chambre, quand il avait fait son discours durant le débat référendaire, il avait dit à la question, nous disons non, merci. Donc, c'est on l'a pris puis on l'a mis sur le macaron.
Une autre approche, une autre époque. Alors, ça me fait plaisir maintenant de vous présenter Olivier Marcille, qui est le vice-principal des communications et des relations extérieures de l'Université McGill, et qui nous a donné, nous au Centre Newman, aux gens qui ont eu l'idée d'organiser ce symposium, un appui extraordinaire et fantastique, non seulement institutionnel, mais de la personne même de M. Marcille, qui a été chef de cabinet des ministres Clément Gignac et Benoît Pelletier, donc familier aussi avec de l'interne du Parti libéral du Québec, et qui a écrit une étude sur Claude Ryan intitulée « La raison et l'équilibre, libéralisme, nationalisme et catholicisme dans la pensée de Claude Ryan au devoir de 62 à 78 ». Alors, je vous passe la parole et le micro.
Merci Anne. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue et je vais essayer d'y aller rondement pour donner la chance à la salle de poser un certain nombre de questions. En guise de réponse, je pense que, d'abord, merci messieurs pour la présentation, excellente. Et en fait, je pense que vous avez touché tous les deux à des points importants de la relation de M. Ryan, à certains égards avec M. Trudeau, avec M. Lévesque et avec M. Bourassa, puis je veux peut-être concentrer mes commentaires là-dessus. Je pense que comme Guy l'a bien démontré, M. Ryan, même quand il était un journaliste, il était un acteur politique. Puis il faut pas oublier qu'en 1973, quand les libéraux ont gagné avec 102 sièges sur 110, l'opposition officielle ou la puissance de l'opposition officielle résidait beaucoup dans le quatrième pouvoir qui était les médias. Et M. Ryan a joué ce rôle-là. Mais je pense qu'à cette époque-là, hein, vous allez être d'accord, il a été très dur envers le gouvernement Bourassa et ça l'a amené finalement à prendre la position de 1976 où il disait à propos du gouvernement à venir de M. Lévesque, c'est le meilleur choix, abstraction faite de l'indépendance. Et il avait été beaucoup rassuré par l'effet d'étapisme que M. Lévesque avait mis en place en disant, écoutez, ils ont un bon gouvernement et après ça, on débattra la question du référendum. De mon point de vue, John Parisella l'a bien dit dans un texte qu'il avait écrit, mais je pense que c'est celui de lundi, que comme M. Ryan n'a pas été premier ministre, dans le fond, sa place dans l'histoire va être moins assurée que les Trudeau, les Lévesque et les Bourassa. Et on trouve ça, en tout cas, moi, personnellement, je trouve ça bien dommage parce qu'à mon avis, il a joué un rôle majeur, aussi important que les trois, dans l'édification du Québec moderne, à mon avis. Dans le fond, avec la pensée qu'il avait, une pensée extrêmement bien structurée, je pense qu'il est un peu à l'origine d'une espèce de libéralisme social à la québécoise qu'on a maintenant aujourd'hui au Québec. Un libéralisme qui est bien incarné dans la réalité, qui laisse une large place à des projets sociaux collectifs et qui laisse une place aux droits collectifs également. À certains égards, j'aurai l'occasion d'y revenir. Je pense que ça a été souligné hier, mais je veux juste le réitérer. M. Ryan, La pensée est extraordinaire, mais je veux dire, la capacité de travail, ça n'a aucun sens. Si vous relisez les éditoriaux de l'époque, là, c'est 3-4 fois par semaine. C'est dense, c'est des pages pleines. On est loin des blogs et des tweets d'aujourd'hui, là. Et au lendemain de la défaite de 81, il a fait une analyse de sa défaite. Ça tient sur 57 pages, avec sans compter les annexes et les tableaux et tout ça. Je veux dire, j'ai côtoyé pas mal de politiciens dans ma vie. Je me rappelle pas là un seul politicien qui avait cette capacité de créer ce genre de texte-là, qui avait cette pensée-là. Alors, je pense que c'est extraordinaire. Puis avec André Fortier, qui a été chef de cabinet de Claude Ryan, qui d'ailleurs m'a mis en contact avec Claude Ryan pour la première fois. André et moi, on a eu l'occasion de collaborer avec M. Ryan sur le livre qu'il a écrit sur les valeurs libérales et le Québec moderne. M. Ryan avait besoin d'un coup de main de deux recherchistes, finalement, pour faire son livre. Alors, André et moi, on s'est mis volontiers à son service. Puis écoutez, je pense qu'il nous a ramassés, il nous a rencontrés une fois ou deux, il nous a demandé une couple de questions, allez me chercher ci, ça, on lui a apporté ça, puis je pense qu'il a pondu le livre en deux semaines, tu sais, à une vitesse phénoménale. Et donc, il écrivait, puis il se relisait peut-être, puis il changeait deux, trois mots. C'était vraiment, comme on dit en anglais, « a beautiful mind ». Je pense que, malgré le débat référendaire et tout ça, je pense que Pierre Trudeau a été le véritable adversaire politique de Claude Ryan. Si je regarde sur une tendance qui remonte aux années 60 jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été M. Lévesque. C'est sûr qu'il s'est battu politiquement contre M. Lévesque, mais je pense qu'il était philosophiquement en désaccord profond avec l'approche de Pierre Trudeau, même si c'était deux libéraux qui avaient une grande conscience pour les droits individuels. Il y avait bien sûr la question de personnalité. Je pense que M. Trudeau n'avait pas la personnalité de M. Bourassa, donc il y avait... Et M. Ryan m'avait raconté une fois que, bien qu'il reconnaissait à quel point Trudeau était brillant et concis et un esprit clair, il y avait beaucoup de difficultés avec la tendance à Pierre Trudeau de déformer les propos de l'adversaire pour pouvoir les utiliser après ça contre lui. Ça l'irritait au plus haut point. Au lieu de vouloir entrer en conversation puis tenter de comprendre le point de vue de l'autre puis essayer de trouver un terrain commun comme tel. Je pense que l'influence de M. Ryan sur M. Trudeau a été somme toute limitée. Et en fait, il s'est même plaint, entre guillemets, un jour que je pense que Trudeau ne l'avait jamais appelé pour lui demander un seul conseil. Et ça remonte à plusieurs, je pense que ça remonte dans l'histoire. Ils sont parlé, évidemment, ils sont rencontrés dans les années 50. M. Ryan et lui ont eu des échanges à savoir si M. Trudeau pouvait joindre l'action politique, l'action catholique ou pas. M. Trudeau a choisi une autre voie qui était la voie de Cité libre et tout ça. Mais après ça, il y a eu plusieurs moments où, dans le fond, ils ont été en affrontement. John a fait référence. Quand Trudeau s'est présenté pour devenir chef du PLC, M. Ryan n'a pas appuyé. Il a appuyé Mitchell Sharp. Puis quand Sharp s'est rallié à Trudeau, Ryan y a appuyé Paul Elliott, right? Et donc, et après ça, en 68, il a appuyé Robert Stanfield contre Pierre Trudeau, puis même il a écrit dans un éditorial la raison, puis là je vais le citer, mais ça vous donne un petit peu le ton et peut-être même l'acrimonie qui pouvait exister entre les deux hommes. Il disait que Robert Stanfield était capable d'humilité et dont la volonté de compréhension et de dialogue était préférable à la raideur et à l'intransigeance de Pierre Trudeau. Donc, ça vous donne un petit peu l'idée de pourquoi les hommes s'entendaient peut-être pas si bien que ça. Je reviendrai pas sur la question de la crise d'octobre. Je pense que Guy a bien résumé le conflit qui se présentait à ce moment-là. Mais après ça, il y a eu d'autres événements. La charte de Victoria était un enjeu important. Et je vais en venir rapidement avec la relation avec M. Bourassa, mais c'est quand même symptomatique. M. Ryan racontait l'anecdote que M. Bourassa l'a fait venir dans son bureau à un moment donné, puis il voulait avoir son opinion sur la charte de Victoria. Et évidemment, c'est un document qui était frappé du sceau de la confidentialité. M. Ryan a dit, écoutez, M. Bourassa, moi, si je vois pas le texte, je peux pas vous donner mon opinion. Donc, il a fait venir le greffier, puis il a dit, donnez-y le texte. M. Ryan est parti avec, ça n'a jamais coulé d'un météo ou tout ça. Mais M. Ryan a eu une influence sur M. Bourassa, il l'a conforté dans son choix de rejeter la charte de Victoria. Une des conséquences de ça, c'est que Pierre Trudeau, c'est à ce moment-là qu'il s'est dit, moi, j'attendrai plus jamais après l'accord des provinces pour changer la Constitution. Sa tête était faite. Et il l'a pris très, très mal. En 72, l'élection encore fédérale, il n'y a plus pas Trudeau. Il n'y a plus le NDP de David Lewis. Et évidemment, il y a eu l'épisode de 76, puis l'évêque contre Bourassa, l'épisode du référendum, où évidemment, avec la finale dramatique du soir, là, où finalement, il y avait un deal apparemment entre les deux, où M. Trudeau devait parler en deuxième. et que finalement, elle parlait en premier, puis le monsieur Ryan était furieux, puis ça, je pense qu'il a eu l'occasion de s'expliquer dans les médias par rapport à ça. D'ailleurs, il regrettait ce discours-là. Hein. Il avait dit qu'il avait regretté d'avoir été si froid, puis d'avoir mal jaugé, finalement, un petit peu l'opinion générale ou l'état d'esprit des Québécois ce soir-là. Sur le rapatriement de 81, je vais aller rapidement là-dessus. M. Ryan était en accord avec l'idée d'avoir une charte canadienne. Il appuyait l'idée comme telle. Avec quoi il a été en désaccord, c'est qu'avec l'urgence avec laquelle Pierre Trudeau voyait la nécessité de doter le Canada d'une charte. Il m'avait dit à un moment donné, il dit, tu sais, Olivier, il dit, on n'avait pas de charte. Il dit, on n'a jamais eu de charte au Canada, puis il dit, on était un pays, on était quand même un pays exemplaire sur le plan des droits et libertés. Là. Il ne voyait pas l'urgence majeure de se doter d'une charte, surtout pas au détriment de rapatrier une constitution puis de l'entériner sans l'accord du Québec. Et je pense que John en a touché un mot rapidement, mais peut-être juste un mot sur la question de la clause dérogatoire, parce que je pense que c'est un débat qui risque de revenir à l'avant-scène, là, avec les débats qu'on entend actuellement. M. Ryan était d'accord avec l'idée d'une clause dérogatoire. Pour lui, la clause dérogatoire est un élément extrêmement important sur le plan démocratique. C'est de laisser la possibilité aux parlementaires de faire des choix collectifs qui est important. D'ailleurs, il l'a évoqué à deux reprises lui-même. Il l'a évoqué en 1978, mais aussi, il faut se rappeler qu'un petit peu plus tôt, au moment où il a modifié la loi sur l'instruction publique en 1988, il l'a également évoqué pour protéger les droits confessionnels des protestants et des catholiques. Donc, mais dans les deux cas, je pense que c'est une nuance qui est importante. M. Ryan l'a fait avec le but avoué, très clair, que ce soit une mesure temporaire. Donner une chance aux législateurs de dégager un compromis puis un consensus qui va permettre de réconcilier les intérêts légitimes de la majorité avec les droits protégés de la minorité. Et ça, c'est bien important. Et ils sont affrontés à plusieurs reprises, là, je ne vais pas revenir là-dessus, mais je pense que tu as dit tantôt, John, puis j'ai trouvé ça important, il était la conscience intellectuelle et morale, sa question de l'identité. Puis dans le débat sur Charlottetown, et même dans Meech, à un moment donné, M. Bourassa, je pense que c'est dans Charlottetown, il a demandé à M. Ryan d'intervenir parce que le débat glissait, il a livré, je pense, 6 éditoriaux dans la presse sur pourquoi il fallait appuyer l'accord de Charlottetown. Mais c'était des bijoux d'éditoriaux, puis on peut les comparer au discours de la maison J. Grohl de Pierre Trudeau également, qui avait eu un impact, je pense, important dans le débat public. La relation avec M. Bourassa, à mon avis, complètement différente. 3 raisons essentiellement. D'abord, la relation de proximité que M. Bourassa aimait entretenir avec la presse. Je pense que M. Bourassa était très moderne dans cette approche-là, puis il tranchait avec les premiers ministres précédents. Puis M. Ryan, il aimait ça être consulté. Fait que je pense que là-dessus, il s'entendait bien comme tel. L'autre élément, c'est la question de leurs valeurs politiques. On en a parlé. Ils étaient globalement alignés, à part peut-être le conflit sur octobre 1970, ils étaient globalement alignés sur les grandes valeurs. Sur leur grande valeur politique, et je pense que ça a beaucoup favorisé la greffe de M. Ryan quand il est arrivé au Parti québécois, au Parti libéral, malgré la position qu'il avait prise d'appuyer le Parti québécois à peine 2 ans plus tôt. Puis finalement, je pense que c'est l'affabilité de M. Bourassa, qui n'était pas quelqu'un qui cédait facilement à l'aigreur. Et je suis sûr qu'il a été très blessé par les éditoriaux de M. Ryan à partir peut-être de 74, 75, 76, où à ce moment-là, il parlait de dérives morales et politiques du gouvernement, critiquait la gestion de l'abbé James, critiquait les allusions de corruption, les méthodes de financement politique du PLQ et tout ça. Évidemment, l'appui à M. Lévesque, mais ils sont rapidement réconciliés. Puis peut-être que John pourra me dire, mais à l'intérieur du parti, ça n'a pas été une période facile où M. Bourassa voulait revenir, que M. Ryan essayait de rester en place. Ça a dû créer un certain nombre de conflits. Mais tout ça pour dire qu'ils sont toujours bien entendus par rapport à ça. Je pense que M. Bourassa, après ça, était bien heureux, comme John l'a dit, d'avoir M. Ryan. Enfin, un mot sur Lévesque, parce que je ne veux pas m'éterniser, mais M. Ryan aimait beaucoup M. Lévesque, puis je pense que c'est dû aussi à une espèce de parcours commun. D'abord, M. Lévesque a perdu son père très jeune. Et M. Ryan, dans le fond, est élevé par une mère qui était monoparentale. Donc, il y avait ça. Les deux étaient des autodidactes. Pas de formation universitaire ou à peu près pas. Deux grands intellectuels comme tels. Amour des libertés individuelles, des grands démocrates, une admiration de la culture de la politique américaine. C'est quelque chose que j'espère qu'un jour on va creuser. C'était des Nord-Américains profonds. Et M. Ryan reprochait souvent aux péquistes d'avoir le regard tourné vers Paris plutôt que ce qui se passe à Toronto puis à Washington. Et finalement, des modérés, des pragmatiques. Et en fait, à un moment donné, j'étais en discussion avec M. Ryan, puis je disais, dans le fond, qu'est-ce que vous avez reproché à M. Lévesque, là? Et puis, il m'a dit, rien. Il dit, M. Lévesque, j'ai presque été d'accord avec toutes ses politiques. Il dit, même comme ministre, j'ai eu l'occasion de voter beaucoup avec le Parti québécois. C'est très mainstream. Mais la rupture s'est faite vraiment sur le projet de loi. C'est là que la rupture s'est faite. Puis M. Ryan a accusé M. Lévesque, dans le fond, de s'être laissé emporter ou en tout cas influencé par les éléments plus extrémistes du Parti québécois. La façon dont la minorité anglophone était traitée dans le projet de loi 1, il n'était pas capable de le supporter. Le débat Clause Canada versus Clause Québec, la clause Québec était littéralement l'arrêt de mort de la communauté anglophone au Québec. Et donc, aurait été voué finalement à une extinction à plus ou moins long terme. Et M. Ryan n'était pas capable de supporter ça. Et d'ailleurs, je vois juste, quand le projet de loi 1 a été adopté, quand il a écrit, il dit « C'est un recul dangereux et stupide qui reflète bien le nationalisme pessimiste, étroit et chauvin d'un gouvernement se croyant suffisamment en possession de la vérité pour ignorer des solutions qui traduisent un large consensus autour d'objectifs minimum. » Et même quelque chose qui n'était pas, je pense, naturel pour lui, mais il a même écrit à ce moment-là qu'il fallait que la Cour suprême intervienne pour défendre les droits des minorités. Puis, honnêtement, je pense que ça a été peut-être un petit un élément qui détonnait dans son parcours intellectuel, parce que autant en octobre, autant au référendum de 80, même après, dans les commentaires qu'il a fait sur la loi sur la clarté en 2000, M. Ryan, c'était le Québec d'abord. Et il n'acceptait pas que le Québec perde la responsabilité de l'agenda politique au profit d'Ottawa sur des questions qui étaient essentiellement internes au Québec. Alors, je vais juste conclure rapidement que je pense que Claude Ryan, comme Lévesque, comme Trudeau, puis comme Bourassa, manquent à leur formation politique respective. Je pense que c'était des monuments d'une puissance intellectuelle qu'on a peu vue. Et je pense qu'aujourd'hui, quand ils ont quitté, dans le fond, quand ils sont décédés, je pense que les formations politiques ont eu à s'ajuster, puis ça n'a pas été facile pour eux. Alors voilà.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, je crois qu'on a le temps de prendre quelques questions. Pardon, excusez-moi, pour les panélistes. Alors, ce qu'on va faire, c'est, je pense que je vais en prendre, on va dire trois au maximum. Et puis, si vous pouvez identifier, si vous avez un panéliste qui devrait répondre à votre question, je vous encourage à faire. We'll take questions. Three of them, and really it's fascinating what we've heard, particularly the fact that the three presentations merge into one another, and Olivier ending with comparing the relationship with the major figures of Quebec political developments in the past decades, I found was fascinating. So, qui voudrait donc s'aventurer? Alors, est-ce que la personne pourrait se lever si...
Hello, thank you. I was wondering, this is a question for anyone in the panel, if Mr. Ryan had a position or had any thoughts about the Créditis or the Social Credit Party as opposed to the more mainstream politicians. Yeah, that's basically it.
Thank you. Je vais prendre une autre question. Pensez qu'on pourrait peut-être répondre, ça va aller mieux comme ça. Bon, alors pendant que les gens réfléchissent, je pense qu'on va aller à la réponse maintenant.
Il faut dire que Ryan, politicien, est arrivé à un moment donné où le mouvement créditiste, le creditist movement, le social credit movement, was on its decline. In 1976, there was a few people who were elected from the Social Credit Party. It's obvious that we worked in the No Committee with those who were there. Camille Sanson, by the way, was a member, or he was a leader of the party. I can't say much about the Real Cahuete period, which was the 60s. Maybe my friend Guy can, because he's probed more the journalistic side of the Ryan career. But it's clear that Mr. Ryan was not given to populist rhetoric, nor to populist policy. And I think our dear friend Olivier, I think, illustrated it very well. You know, he's very thoughtful, didn't want to be caught by the emotion of the day. And if you arrived with, you know, one of those quick popular ideas that's really trending, he would not jump in. He would challenge you, and you better be prepared, you know. Working with Ryan, and I think Andre Fauci is the best example of that, it's got to be, it takes a lot of rigor. La rigueur intellectuelle, you can't just arrive there on the spur of the moment and say, well, it's popular, I read the editorial, did you see the poll? You do that, you're dead. In 1981, one of the criticisms that was made about Mr. Reid as the politician, as opposed to the man who led us through the referendum victory, was that he was not conscious of some of those more popular notions of the day. We had no polls. We literally did that campaign in 81 without polls. He believed in the pointage. And what was the difference between a sondage and a pointage? A sondage is essentially a scientific poll. My dear friend Guy LaChapelle is an expert at doing that and interpreting it. A pointage is literally asking every writing to go ring on doorbells or call people if you can't reach them and assess what you get. And what we did is we would talk to a lot more people, but it wasn't scientific. And we were ahead in the pointage in 1981. If you had just looked at pointage, I would have predicted to you we were going to form the next government. But we lost 49% to 46%. The largest defeat, by the way, since 1981, between the largest margin between the PQ and the PLQ. There never was such a big margin. We were really navigating without a compass, you know. So that was one of those things. But as a minister, we saw that Ryan was really not of the creditist culture when it comes to policymaking.
Thank you. We have a question over there.
Bonjour. Alors, une question en simulation, soit pour M. Paxella ou M. Marcille. Quelle aurait été la position de M. Ryan aujourd'hui par rapport à la charte des valeurs?
You wrote about it. Madame Leahy, une autre question ici.
Après la période active en politique au Parti libéral, je sais que le parti a confié à M. Ryan des recherches. Je me souviens qu'il m'avait parlé d'une recherche qu'il avait faite par rapport à tous les mouvements qui s'occupaient des appauvris à Montréal. Puis je me demande s'il a fait d'autres recherches de ce type-là, parce que ce qu'il m'en avait dit me semblait que c'était bien important ce qu'il avait fait comme recherche. Merci.
Terminer sur ces deux questions, donc la charte et les recherches.
Bien, en fait, je vais commencer par la question sur la recherche. Il a effectivement mené, puis je vois Alain Paquet qui est derrière, puis Alain a collaboré beaucoup à cette recherche-là, ainsi que Ross Copeman, qui est aujourd'hui élu à la Ville de Montréal, notamment, et Feu Claude Béchard également, sur la pauvreté, un rapport substantiel et une vraie recherche de terrain qui avait été commandée par M. Johnson à l'époque. Et en fait, je pense que M. Johnson, dans son idée, c'est d'en faire la base électorale de la campagne qui était à venir en 98. Et ce rapport-là, il est à la bibliothèque encore aujourd'hui, ou peut-être si vous communiquez avec le PLQ, pourrait vous en fournir une copie. Mais je pense que ça avait une affaire comme 60 recommandations, quelque chose comme ça. C'était très épais. C'était un rapport substantiel qui avait été très bien accueilli. L'histoire a changé. M. Johnson démissionné, M. Charest est arrivé, puis évidemment la stratégie électorale a changé les plans. Mais ce rapport-là, je pense, encore aujourd'hui, est d'une grande actualité. Sur la question de la charte, j'ai eu l'occasion de publier un court texte cette semaine dans la presse. Puis si vous allez sur Google, vous devriez être en mesure de le retrouver. Mais c'est très difficile de savoir exactement ce qu'il penserait, mais si on se fie aux positions qu'il a prises par le passé, il aurait été, je crois, en désaccord. M. Ryan, comme la plupart des libéraux, puis ça, je remonte au 19e siècle, là, toujours favorisé la séparation de l'Église et de l'État, la neutralité religieuse, mais leur amour des libertés individuelles faisait qu'ils étaient respectueux de la manifestation publique de la religion et refusaient de finalement reléguer à la sphère privée la question religieuse. Et sa réaction au rapport Proulx qui avait été commandé par le Parti québécois, et le rapport Proulx, pour la petite histoire, c'est le rapport qui, dans le fond, a mené au remplacement de l'enseignement culturel, l'enseignement confessionnel des religions pour les catholiques et les protestants à travers un enseignement éthique et culturel des religions, pardon. Et, dans le fond, avait une critique très sévère envers ça. Il comprenait pas pourquoi Dans le fond, quand plus de 90 % de la population se déclarait soit catholique ou protestant, on devait, dans le fond, faire abstraction complètement du passé religieux dans la formation à l'école. Et donc, dans le fond, sur cette base-là, moi, j'avais l'hypothèse qu'il aurait été en désaccord. Peut-être qu'il aurait été favorable à une certaine approche plus ciblée, mais je pense qu'il aurait demandé à voir les démonstrations pour pouvoir interdire ça. Et ce qui est sûr, à mon avis, c'est qu'il aurait rejeté l'approche uniformisante à tout le secteur public imposé par la loi. Je pense que c'est vraiment pas son style. John, il l'a dit sur la question des illégaux. C'était pas Ryan de faire ce genre d'approche-là.
Moi, je voudrais faire juste un complément. Juste pour vous dire que, juste dans la méthode, M. Ryan n'aurait jamais commencé une commission parlementaire en disant qu'il y a des choses qui sont absolument intouchables. Il aurait jamais, il serait jamais levé de donner la main à quelqu'un qui a fait une présentation favorable à son projet et pas donner la main à ceux qui l'ont pas fait. Donc, tout de suite, sur la méthode, il y a une grande différence. Et c'est pour ça qu'au bout de la ligne, il était capable de régler en grande partie le double, en partie complète, c'est-à-dire les illégaux. Et la même chose avec la question de l'affichage bilingue. Je voulais ajouter juste une couple de choses sur la charte. Il n'y a pas d'étude pour supporter la nature du problème. Tout de suite, Ryan, il ferait X. Deuxièmement, on va congédier du monde, littéralement, en leur disant, bâtir votre flore à partir de 5 heures le soir, mais vous n'avez pas le droit entre 9 et 5, sinon on vous congédie. Un autre X. Et le troisième, quand vous allez venir appliquer chez nous, il faut vous engager de ne pas porter le flore quand vous allez, si on vous embauche. Un autre X. Donc moi, je pense que c'est assez clair où ce que M. Ryan aurait été sur cette charte. La question de la clause dérogatoire, effectivement, comme M. Bourassa, ils l'ont toujours vu dans une situation temporaire. Donc, c'est vrai qu'il aurait pu avoir peut-être quelques aménagements, mais jamais ça aurait eu la même distinction, ou du moins ça aurait été. Il y a un élément, Anne, juste pour le dire, signaler, le texte qu'a fait M. Ryan sur la défaite de 81 est intitulé « Québec d'abord ». Et ça, il ne faut jamais oublier ça. C'est un texte qui ne niait pas le lien fédéral, et quand vous lisez les textes dans celui-là ici, vous voyez la grande attachement. Il s'est même converti beaucoup vers la charte fédérale. De toute façon, il a vu l'utilité. Mais il était vraiment une personne que, pour lui, la gouvernance à l'Assemblée nationale doit avoir une notion de Québec d'abord, qui était conforme avec celle de M. Bourassa. Dernier point sur Bourassa. M. Bourassa aurait voulu être candidat en 81. M. Ryan n'a pas voulu. Et c'était compris assez directement. Et M. Bourassa, quand il est devenu chef, il a tendu la main à M. Ryan. Et M. Ryan m'a parlé de la différence entre le comportement Ryan versus Bourassa et Bourassa envers Ryan. Et c'est là que j'ai vu cette grande intimité, du moins intellectuelle, qui s'est formée entre les deux hommes, et ce respect pour l'être humain qui était Robert Bourassa et Claude Ryan a fait une belle évolution dans ce même sens-là. Monsieur Ryan était beaucoup plus tranchant dans Ryan 1, mais dans Ryan 2, c'est un rassembleur, c'est une personne qui pouvait inclure les forces qui pouvaient être en contradiction comme personne d'autre pouvait le faire. Donc, dans un sens, autant que M. Ryan était une caution pour M. Bourassa sur le plan de l'identité du Québec, autant M. Bourassa l'était peut-être sur la question du parcours politique qui a suivi.
Merci beaucoup.